Nous aurons encore deux leçons après celle-ci. Deux leçons sur l'homme devant Dieu. Bien sûr, c'est un cours de philosophie, d'anthropologie. Donc, ce serait une réflexion non pas directement théologique, mais philosophique. Et aujourd'hui, nous avons, aujourd'hui, lundi 30 novembre, nous avons la deuxième partie du chapitre 6, la question métaphysique de la mort. Alors, souvenez-vous, la fois passée, nous avions déjà commencé, et donc sur votre feuille de route, j'ai repris le plan complet, mais j'ai indiqué cours précédent, donc la liberté spirituelle et son corps vivant, la liberté spirituelle et son corps mort, et alors j'avais déjà traité le point A et B, et maintenant je vais commencer le point C, mais je vais quand même rappeler rapidement le point A et B. Donc j'avais commencé là par une petite parabole, vous vous souvenez, hein? Voilà, si je réunis des enfants dans le parc ici et je leur dis on va faire un jeu qui va durer une demi-heure, vous allez dans le parc, vous cherchez la plus belle chose que vous voyez et après une demi-heure je donne un coup de sifflet et chacun montrera la plus belle chose qu'il a trouvée. Ce sera bien un papillon, ce sera un copain, ce sera un ballon de football, ce sera etc. Mais finalement après une demi-heure, pas de coup de sifflet. Et les enfants restent là et ils se demandent à quoi ça servait de faire ce jeu. Parce que ce jeu n'a pas de conclusion. Eh bien, cette parabole, je l'utilisais pour dire que notre vie aussi s'écoule dans le temps. Et bien sûr, au niveau du corps, c'est le corps qui mesure le temps dans l'histoire naturelle. Vous vous souvenez des trois histoires de Fessard, l'histoire naturelle, l'histoire humaine, l'histoire surnaturelle. Dans l'histoire naturelle, c'est le corps qui mesure le temps, et à un moment donné, ça s'achève. Et cet achèvement est nécessaire pour que nous puissions conclure notre vie. Et nous puissions à un moment donné dire, voilà, ma vie, c'est ça. Dans ma vie, j'ai choisi. Pas une fois, mais 10 fois, 100 fois, 1000 fois, quand j'étais jeune, quand j'étais adulte, quand j'étais plus âgé, j'ai toujours voulu choisir tel sens et telle valeur. Alors, ces concepts de sens et valeur reviennent sans cesse. Notre vie a un sens et une valeur que nous devons reconnaître. Peut-être que ce n'est pas le même sens ou la même valeur pour tout le monde, mais nous choisissons de préférence tel type de sens, tel type de valeur. Et voilà, l'homme s'accomplit en promouvant dans sa propre vie tel sens. Un sens plus scientifique, un sens plus esthétique, un sens plus relationnel, et une valeur. Une valeur, eh bien, disons la bonté, la sincérité, l'altruisme, le service des autres, etc. Ou leur contraire, bien sûr. Voilà, notre vie est faite pour que chacun, nous puissions opter, pas une fois, comme ça dans un éclair de grande liberté. Ça c'est la liberté angélique, dirait saint Thomas d'Aquin ou saint Ignace de Loyola. C'est comme une liberté angélique qui a tous les possibles devant elle et a toutes les puissances de choisir, et elle choisit une fois, pas plus. Nous ne choisissons pas une fois, nous choisissons des dizaines et centaines de fois, mais en principe, nous choisissons toujours dans une certaine orientation de sens et de valeur. Si notre vie humaine ne s'achevait pas, au sens du temps chronologique de l'histoire naturelle, eh bien, d'une certaine manière, notre vie humaine ne s'accomplirait pas non plus, parce que ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens, on pourrait aussi bien choisir le vrai que le faux, le bon que le mauvais, il n'y aurait pas de différence. Alors c'est ce que je disais, notre corps, eh bien, il vit au sens de la vie biologique, zoé, d'ailleurs les Grecs faisaient cette différence, zoé, c'est la vie animale, zoologique. Mais nous avons aussi une biographie, bios c'est la vie. Alors bien sûr aujourd'hui on dit biologie, mais disons pour les Grecs, bios c'est la vie au sens humain, pas au sens organique, au sens des événements de la vie, de la liberté. Et voilà, donc le corps bien sûr ne peut faire que, nous le constatons, que naître, grandir, se développer, et à ce moment décliner, et puis mourir. Il y a là une nécessité. Mais cette nécessité est peut-être là pour eh bien, nous provoquer et nous forcer à accomplir avec notre vie quelque chose. Nous n'avons pas une éternité devant nous. Nous avons un temps mesuré et qu'allons-nous faire de ce temps? Alors bon, on ne pense pas tout le temps qu'on est occupé à préparer sa mort, bien sûr, mais de fait, le temps dont on dispose, on décide d'en faire quelque chose, on choisit des sens et des valeurs qu'on promeut dans sa propre vie, dans ses relations avec les autres, etc. Bien sûr, la vie humaine n'est pas faite que de choix libres. Il y a énormément de circonstances fortuites dans notre vie, des contingences. L'action humaine, elle doit composer avec toute une série de contingences. Et la première contingence, ben, c'est celle de notre naissance. Nous sommes nés à cette époque-ci, dans ce pays-ci, dans une famille telle. Nous sommes le premier ou le dernier de la famille, etc. Il y a toutes sortes de contingences. Et notre liberté, eh bien, compose avec ces contingences pour essayer d'en faire quelque chose de libre. Alors, il y en a évidemment qui naissent avec plus d'avantages que d'autres, mais ce n'est pas pour autant qu'ils en feront un meilleur usage. Parfois, c'est justement l'inverse. Donc, toutes sortes de circonstances, d'inégalités aussi. Certains meurent jeunes, d'autres meurent très âgés, etc. Eh bien, il faut travailler à surdéterminer ces contingences. Elles nous sont imposées, elles nous déterminent, mais on peut les surdéterminer. C'est ça, une des grandes idées que je reprends à Ricoeur. Notre liberté ne peut pas échapper au déterminisme, mais elle peut surdéterminer ce qui nous est imposé. Et donc le hasard a une grande part dans notre biographie. Ben, vous gagnez le gros lot, ou bien vous faites un accident terrible, qui change complètement votre vie. Vous vous lancez dans un duel, autrefois, pour une bêtise, et vous mourrez. Il y a comme ça des hommes célèbres, je ne sais plus quel mathématicien extrêmement brillant, qui, au cours de je ne sais pas quelles circonstances, voilà, Évariste Éloie, Galois, eh bien, il est mort très jeune dans un duel. Mais pourquoi est-ce qu'il s'était lancé dans ce duel? Ben voilà.
Non, il a été emprisonné et il a écrit sa théorie en prison. Et il n'avait pas le temps alors que les démonstrations de prison, il les passait.
Voilà, donc on doit composer avec toutes ces circonstances. Mais c'est ensemble que le corps et la liberté, dans la manière dont je présente les choses, le corps et la liberté étant intimement liés, qu'ils grandissent pour ou contre la vérité et la bonté de la vie. Et c'est à chaque moment de ma vie que je dois le vouloir de nouveau. Une option de principe n'est pas possible. Et nous pouvons dire un jour, maintenant je choisis définitivement ceci, ben, le lendemain ben, on n'a pas l'énergie de s'y mettre, ou bien on a déjà un peu changé d'idée, ou je ne sais pas quoi. Donc nous ne sommes pas une liberté angélique, si ça signifie quelque chose, mais pour notre pensée ça peut signifier quelque chose. Et nous devons sans cesse confirmer notre option, écarter sans cesse la possibilité de ces contraires, etc. Et à chaque moment, une nouvelle chance nous est offerte. Chance ou danger. Le pécheur, le débauché, eh bien, à chaque moment, peut éventuellement se convertir. Mais plus il écarte cette possibilité, plus cette possibilité devient difficile. De même, eh bien, le saint, eh bien, il a peut-être toute sa vie fait des choses extraordinaires, mais à aucun moment il ne peut échapper à la tentation éventuellement d'échoir. Tant que le rideau n'est pas tombé, la pièce n'est pas finie. Voilà, c'est ça l'accomplissement de la vie. En parallèle avec l'achèvement. Et donc accomplissement, achèvement, ce sont deux concepts que je spécialise, l'un pour l'histoire naturelle, l'autre pour l'histoire humaine. En allemand, c'est Endung, Erfüllung, si vous voulez. Mais, donc, voilà, il faut confirmer sans cesse le choix qu'on veut faire, si bien que Blondel, par exemple, a cette formule qui est intéressante, à propos de l'enfer, il parle de l'enfer, peu importe ce que c'est l'enfer, mais nous voyons bien que c'est un peu le salaire de quelque chose de triste, si on veut, eh bien, il dit, ce qui advient alors n'est pas sans avoir été voulu, même si ce n'est pas ce qui a été voulu. Personne ne veut aller en enfer. Hein. Mais ce n'est pas sans avoir été voulu au sens où, ben, de choix en choix et de choix en choix, eh bien, finalement, on va par là. Hein. Et on le sait. Et on dit, oui, mais je vais prendre un tournant un petit peu plus tard, etc. Mais il est temps de prendre le tournant. Hein. Sinon, eh ben, on y va. Et dans cet enfer qui n'a pas été voulu comme tel, il n'est pas pourtant sans avoir été voulu. Alors, je prends un peu maintenant une nouvelle partie, le point C, la liberté spirituelle et son corps mort, avec une intuition plus spirituelle au niveau de l'histoire surnaturelle que je développe à partir de deux citations, une de Peggy et une de Bernanos. Peggy écrit ceci dans Ève, à propos du péché originel. De nouveau, ce n'est pas de la théologie que je fais, hein. Je prends ces concepts pour nous aider à penser, nous donner à penser. Le péché originel est ce qui aurait causé la mort. Vrai ou faux? Eh bien, Peggy dit peut-être que la mort était là, mais elle a pris un tout autre visage, un tout autre masque après le péché. Et c'est ainsi qu'il dit ceci, hein, je l'ai mis en note, là, dans la note 1, ce qui, depuis ce jour, est devenu la mort, n'était qu'un naturel et tranquille départ. Le bonheur écrasait l'homme de toutes parts. Le jour de s'en aller était comme un beau port. Voilà, il imagine que s'il n'y a pas de péché sur cette terre, eh bien, nous naissons, nous vivons heureux, sans péché, rien du tout, et puis le jour de notre mort, ben, nous sommes contents de partir vers Dieu et de laisser ceux qui nous suivent, eh bien, continuer leur vie, hein, avec ce qu'on leur a offert d'ailleurs. Voilà, c'est un peu poétique, c'est un peu spéculatif aussi, hein, mais ça me semble intéressant. Ce qui, depuis ce jour, est devenu la mort, n'était qu'un naturel et tranquille départ. Le bonheur écrasait l'homme de toutes parts. Le jour de s'en aller était comme un beau port. Alors une autre formule, c'est celle de Bernanos dans Jeanne, Relapse et Sainte, qui dit ceci. Le jour de la mort, eh bien, c'est le premier matin de notre vraie vie. Ô mort si fraîche, ô seul matin. Alors, je vous ai mis un peu le contexte, hein, de cette phrase. Nous avons déjà trop à faire d'arracher chaque heure du jour, une à une, à grand-peine, chaque heure de l'interminable jour, jusqu'à l'heure attendue. L'heure unique où Dieu daignera souffler sur sa créature exténuée. Ô mort si fraîche, ô seul matin. Bon, évidemment, c'est un croyant qui parle. Hein. Mais voilà, il suggère que la mort n'est pas une chute dans le noir, comme il dit, mais une montée dans la lumière. Voilà, alors évidemment, nous sommes ici, hein, encore un pas de plus que le pas de l'achèvement biologique, de l'accomplissement humain. C'est, hein, au niveau de l'histoire surnaturelle, eh bien, c'est la conviction que la mort nous fait entrer dans une nouvelle phase métaphysique, hein, de notre existence, de notre manière de partager l'être. Nous continuerions à partager l'être, mais plus dans l'espace-temps que nous connaissons ici. C'est donc évidemment, ben, un départ vers un inconnu, mais cet inconnu peut être plein d'espérance. Alors voilà, pour le pécheur ou pour celui qui voit dans le monde tout ce qui va mal, eh bien la mort finalement... c'est encore un malheur de plus, c'est une chose terrible, hein. Il faut arracher le bonheur à ce monde malheureux. Mais peut-être que pour celui qui est en paix avec lui-même, avec les autres, avec Dieu, eh bien, ce tranquille départ, hein, est tout à fait différent. Hein. Il ne l'inquiète pas autant Et il peut donc se préparer à mourir d'une toute autre manière. Alors, il peut vivre sa mort d'une autre manière, bien sûr, mais il va vivre sa vie aussi d'une autre manière. Il va vivre sa vie d'une autre manière. Parce qu'on peut avoir deux réactions, hein, dire « je suis mortel, je vais mourir, donc j'ai peur, donc je m'agrippe hein, à tous les murs pour ne pas être emporté. » Ou bien on peut dire au contraire « ben, je vais mourir, bien sûr, un jour je ne vivrai plus, donc ben, je vis à fond maintenant, hein, je suis en plein dans la vie. » Et j'en profite, pas au sens excessif et extravagant du terme, mais au sens de « je vis vraiment hein. ». Puisque je vais mourir, ben je suis heureux de pouvoir vivre maintenant. Voilà. Ce n'est pas plus irrationnel que l'autre attitude hein, qui dit « je vais mourir, donc je m'accroche à la vie hein, » en craignant à tout moment de la perdre. Voilà. Donc, est-ce que cette vision n'est pas un peu trop optimiste hein? On m'avait fait un petit peu l'objection là, hein, de notre vie qui serait comme une œuvre d'art qu'on accomplit. Hein, bon, à un moment donné, malheureusement, on ne peut pas le choisir, ou bien peut-être qu'heureusement, on ne peut pas le choisir. Hein. Enfin, notre œuvre d'art, on ne sait jamais si elle sera vraiment bien accomplie ou pas, puisque le moment de l'achèvement, eh bien, comme on nous l'a bien dit dans, dans toutes les lectures hein, de la fin de l'année liturgique, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Est-ce que ce n'est pas un peu trop optimiste? Eh bien oui, il faut se reposer la question. Hein. Est-ce que ce beau parcours n'est pas trop optimiste? Alors vous voyez sur votre feuille de route ce que j'ai donc indiqué, 2A, 2B, 2C, histoire naturelle, histoire humaine, histoire surnaturelle. Je vais reprendre maintenant ces trois histoires en réfléchissant sur le cadavre, histoire naturelle, sur l'immortalité, la survie, histoire humaine, et finalement sur eh bien, la communion des saints, si on veut, hein, histoire surnaturelle. Donc je refais un parcours, c'est une pensée un peu dialectique, hein, voilà. Objection, tout ça c'est beaucoup trop optimiste. Eh bien, ok, reprenons les choses de manière plus crue. L'accomplissement spirituel que vous m'expliquez, allez-vous me dire, hein, est lié à un événement contingent qui peut être complètement banal au point d'en devenir absurde. Et donc ce bel accomplissement que vous me dites, en fait, nous met souvent devant une impasse. Les gens qui meurent ne sont jamais prêts à mourir. Ils ont des tas de choses qu'ils auraient dû faire ou dire ou pardonner ou exécuter ou je ne sais pas quoi. Eh bien, c'est toujours un peu une catastrophe. Hein. C'est toujours un peu une impasse. Voilà. Et même les gens les plus brillants, ou les plus meurent parfois dans des circonstances complètement ridicules, hein, qui sont comme presque un échec hein, à leur propre vie, hein, d'artiste ou de saint, ou de je ne sais pas quoi. En effet, on voudrait peut-être qu'au moment de notre mort, nous soyons le plus unifiés possible. Dans notre corps et dans notre esprit, le plus unifié possible, pour pouvoir justement hein, mettre le point final, un beau point final, un broche de oro, comme on dit en espagnol, hein, une broche d'or hein, qui vient accomplir, hein, qui vient serrer un manteau, une belle broche qui accomplit. On voudrait cela, logiquement ce serait bien hein, que ce moment soit le plus beau finalement de la vie. Pour certains, ce l'est parfois. Hein. Faut pas non plus écarter cette possibilité. Alors, chaque fois que je vous dis c'est possible, eh bien, j'ai chaque fois en tête quelqu'un, hein, aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais sens. Mais je vais pas raconter toutes les histoires, bien sûr. Mais la plupart du temps, ben, nous constatons plutôt une espèce de tristesse, hein, parce que l'âme s'en va, semble-t-il, le corps n'est plus animé, et on se représente les choses comme une séparation du corps et de l'âme, du cadavre et de l'esprit. Alors je dis on se représente, parce que vous vous souvenez que j'ai insisté hein, la fois passée sur la différence entre se représenter et penser, avec cette formule de Maréchal que je vous ai remise là au bas de votre feuille de route. Maréchal, ce jésuite qui est d'ailleurs mort dans un bombardement, si je me souviens bien, en 1944, hein, Oui, mort absurde hein, pour un grand philosophe, hein, voilà, ben, contingence, bien sûr. Alors, penser, dit-il, c'est un acte qui se fait en dépendance extrinsèque par rapport aux éléments de la représentation. En dépendance, parce qu'on ne peut pas penser sans représentation. Les représentations peuvent être de type visuel, imaginatif, mais aussi de type affectif. Et toujours, on a un petit cinéma intérieur lorsqu'on pense. Mais la pensée, c'est autre chose que ce cinéma intérieur, dont on a peut-être besoin. Mais la pensée s'élève au-dessus. Alors, je prends quelques exemples. En géométrie, le géocentrisme, par exemple, hein, ben, là, c'est un exemple. On se représente que le Soleil tourne autour de la Terre, mais quand on réfléchit et qu'on fait des mesures, ben, on pense que ce n'est pas vrai. Et on prouve que ce n'est pas vrai. La pensée défie les représentations. Un bâton que vous mettez dans l'eau, comme vous savez, ben vous avez l'impression qu'il est cassé, en fait il est droit. Voilà. Il y a les représentations peuvent nous tromper, peuvent nous induire en erreur, mais la pensée, à partir de ces représentations, parce qu'on a calculé le géocentrisme et le bâton pas cassé, à partir de ce qu'on voyait quand même, la pensée est un geste de plus pour aller au-delà de cela. Alors, ça peut être l'imagination, mais ça peut être l'imagination spatiale, visuelle, plus ou moins intellectuelle. Ça peut être aussi l'imaginaire affectif, nos représentations. Il y en a certains, quand on dit mort, ils ont tout de suite la chair de poule, puis, parce que, je ne sais pas, ils ont une très mauvaise expérience. Voilà, d'autres pas, ou d'autres moins. Alors, un exemple que j'aime bien prendre aussi pour la question de la représentation, c'est tous nous avons fait de la géométrie. Alors, le professeur vous met au tableau, et surtout si c'est moi, c'est un très mauvais triangle que je vous dessine. Je vous dessine un triangle qui n'est pas un triangle, un cercle qui n'est pas un cercle, mais on va réfléchir là-dessus et on va déduire que la somme des trois angles fait 180 degrés. Mais c'est la pensée qui pense ça. L'entendement, la pensée qui arrive à cette conclusion. Le dessin n'est qu'un petit support très très malhabile. Et vous pouvez venir avec un compas, je ne sais pas tout quoi, vous verrez que tout ça est faux sur mon triangle, le tableau, mais vous avez compris le théorème. Voilà, parce qu'on pense en dépendance, bien sûr, des éléments de la représentation, mais en dépendance extrinsèque. Extrinsèque, il y a quand même une distance. Alors voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de semblable à faire lorsqu'on se trouve devant le cadavre ? Qu'est-ce que nous voyons ? Eh bien, nous voyons une rupture. Nous nous imaginons, nous nous représentons, la philosophie a développé des concepts dans ce sens-là, nous nous représentons que l'âme qui était à l'intérieur du corps, elle est partie ailleurs. Peut-être qu'elle a sa vie à elle, peut-être qu'elle est suffisamment une substance, comme je vous ai expliqué à la première leçon, pour avoir la vie en elle-même, indépendamment du corps, mais il y a une séparation. Le cadavre d'un côté, l'âme de l'autre. Ce n'est pas une mauvaise représentation, je crois, mais c'est quand même une représentation. Donc il faut essayer d'aller plus loin. Essayer de penser philosophiquement quelque chose qui va au-delà. Ce que nous pouvons imaginer n'égale pas ce que nous pouvons penser. Nous pouvons penser plus que ça. Nous pouvons penser plus loin que ça. Comment ? Eh bien, nous rendons compte que c'est une représentation. Est-ce une réalité ? Nous n'en savons rien. Nous pouvons penser que cette âme séparée va dans un état autre. Alors là aussi, il y a une représentation sans doute. Mais est-ce que cette pensée n'a pas quelque chose de plus fort que la simple représentation du cadavre et de l'âme séparée ? Le cadavre. Qu'est-ce que c'est un cadavre ? Il est difficile de lui donner un statut philosophique. Que veut dire rationnellement un cadavre ? Est-ce que c'est une substance ? Au sens aristotélicien du terme. Non, parce qu'il n'y a plus d'âme. Donc, ce n'est pas une substance. Est-ce que c'est de la matière pure ? Ben non, ce n'est pas de la matière pure, ce n'est pas de la glaise, ce n'est pas de enfin, ce qu'on pourrait s'imaginer, non. C'est ce qui fut une substance et qui retourne à la matière pure. Si cette matière pure existe, hein, parce que cette matière pure aussi est une abstraction. Ce fut une substance et ça retourne à la matière pure, mais ce n'est ni l'un ni l'autre finalement. C'est un corps mort, mais pas sans plus. C'est le corps humain de quelqu'un qui est mort. C'était le corps humain de quelqu'un qui est mort. Ce quelqu'un, nous le représentons, et je cite Bossuet, hein, comme ce je ne sais quoi qui n'a plus de nom dans aucune langue. Ce cadavre, c'est on ne sait pas quoi, qui n'a plus de nom dans aucune langue, qui est distinct de celui qui était ce corps. Dans ce cadavre même, nous avons à nous représenter eh bien, un processus d'altération, un passage d'un maintenant à un autre stade, un autre moment. Et le cadavre manifeste bien l'échec de l'homme, finalement, hein, à faire ce qu'il veut de sa vie. Instamment, on lui retire son corps et cet accomplissement qui paraissait un peu optimiste eh bien, est commis en échec par ce cadavre. On peut définir, et ce n'est pas faux, le cadavre simplement comme ce qui pourrit au cimetière. Parfois, on pose, des enfants posent la question, c'est quoi, où est-ce qu'il est, un tel, ben, il est au cimetière, il pourrit. Si évidemment on dit ça à son enfant, est-ce qu'on dit quelque chose de vrai ou de faux? Ben, on dit quelque chose de vrai, mais c'est pas faux, mais est-ce que c'est suffisant de parler comme ça? Parce que sinon il faudrait dans la même ligne, je m'excuse d'être un peu trivial, hein, mais lorsque l'enfant dit à son père ou à sa mère, d'où est-ce que je viens? Ben, si on le disait de manière aussi plate que ce qu'on a dit du cimetière, ben, ce ne serait pas très engageant, quoi, hein? On pourrait décrire ça d'une manière finalement très grossière, très... Mais je crois que n'importe quel parent qui aime son enfant dira autre chose. Hein, dira autre chose qu'une description purement physiologique, hein, de son origine. Voilà, et bien c'est un peu la même chose. Le cadavre, bon, c'est ce qui pourrit au cimetière, oui, mais c'est quand même autre chose que ça aussi. Hein, parce que l'homme lui-même est autre chose que simplement... voilà deux cellules qui se rencontrent plus ou moins par hasard et qui tout à coup, on ne sait pas trop pourquoi, etc. Mais le cadavre montre quand même que l'homme échoue. L'homme échoue toujours. Ici, je durcis le trait, puisque hein, je me suis reproché à moi-même l'optimisme, maintenant je durcis le trait. Le cadavre ne signifie plus rien. Il ne manifeste plus aucun sens, aucune valeur. On est forcé de l'éliminer. On l'élimine. Il faut qu'il sorte du champ de notre action parce qu'il nous embête. Quoi. Le cadavre manifeste à l'évidence un échec de l'homme. C'est en cet échec que l'homme peut-être malgré tout eh bien, reprendre la main et s'accomplir. Mais s'accomplir dans l'échec. Alors comment? Je crois là qu'il y a une intuition très forte. Hein. Est-ce que l'esprit est capable de reprendre la main? Hein, l'esprit, c'est quoi? C'est la liberté présente à elle-même. Hein, c'est un peu une définition qui court dans ces leçons. Est-ce que l'esprit peut reprendre la main sur ce constat d'échec? D'ailleurs, quand nous visitons la tombe de nos parents, bien la tombe des hommes célèbres, nous voyons bien que nous allons visiter autre chose qu'un cadavre qui pourrit. Hein. C'est tout autre chose. Parce que l'esprit... L'amour, le cœur, mais l'esprit, quand nous allons visiter le tombeau de quelqu'un de célèbre, l'esprit reprend la main d'une certaine manière. Pas celui qui est mort, bien sûr, mais notre esprit. Et nous savons que nous allons finir comme lui. Et pourtant, ça nous intéresse hein, de voir où il est. Alors, de deux choses l'une. Ou bien, on s'en tient à la description plate, hein, et le seul accomplissement de l'homme, eh ben, c'est son achèvement, et donc c'est un échec. L'homme ne réussit jamais à donner sens à sa vie puisque il devient un cadavre. Et finalement, c'est absurde, le sens de la vie est absurde. L'homme réduit à n'être que son corps, bientôt réduit à n'être qu'un cadavre, c'est-à-dire un néant de vie, un néant de sens, de liberté, et l'existence humaine est comme absurde, et cette absurdité glisse dans le néant. Ou bien au contraire, cette absurdité de la mort, cet échec de la liberté en son accomplissement même, cet échec même, demeure présent, même sous les traits de ce cadavre, demeure présent dans l'être, dans l'histoire humaine, dans l'histoire surnaturelle. Alors il y a peut-être des altérations au niveau de l'histoire naturelle, biologique, mais ce cadavre continue à avoir un sens, une valeur, aux yeux des autres en tout cas, aux yeux de Dieu peut-être, si on est croyant. Est-ce que l'esprit est suffisamment fort pour donner sens à cet ultime échec? Voilà un peu la question philosophique qui nous défie. Est-ce que la puissance de l'esprit, de cette liberté en présence d'elle-même, et la puissance de l'esprit est suffisamment forte pour donner sens même à cet échec? Je reconnais l'échec, et pourtant je dis que cet échec, eh bien, n'est pas encore le dernier mot. Sans doute l'homme ne peut pas choisir d'être un cadavre ou non. Donc on ne peut pas reprendre la main dans ce sens-là. On n'a pas la liberté de choix d'être un cadavre ou non, et encore moins d'être réduit aux éléments du monde au cimetière. Mais est-ce que la liberté justement se définit seulement par sa capacité de choix? Vous souvenez la leçon sur la liberté. Le temps 1-2, c'est la liberté de choix, la liberté par le choix. Tandis qu'il y a le temps 3-4, qui est le travail, l'endurance, et finalement l'affrontement de l'échec pour éventuellement réussir. Mais risquer quand même l'échec pour réussir. Donc est-ce que nous sommes dans une liberté de choix ou dans une liberté d'esprit, selon les temps 1-2 ou bien 1-2-3-4 que je vous ai développé? Si notre liberté est capable d'acquiescer à cet échec par avance, est-ce qu'il n'y a pas là comme un sursaut de réussite sur cet échec? Alors ici je pensais l'avoir mis sur la feuille de route, mais je ne l'ai pas fait. Je vous livre une intuition de Hegel qui me semble très intéressante, que je ne partage pas jusqu'au bout, mais quand même. Hegel: en finir avec le fini, c'est passer à l'infini. En finir avec le fini, c'est passer à l'infini.
C'est
sur la feuille de route. Ah ben tant mieux, donc voilà, je... C'est où? Ah ben oui, évidemment. Hegel: en finir avec le fini, c'est passer à l'infini. Alors voilà comment raisonnait Hegel. Je suis un être fini. Je le constate. C'est tout ce que je peux constater. Je suis un être fini. Mais je le sais. Je le sais. Et donc, je sais que je vais finir. Je sais que je ne suis pas infini. Je sais que je ne suis pas l'absolu. Mais en acceptant ma finitude, et en l'acceptant non seulement tous les jours de ma vie, mais en l'acceptant en mourant, eh bien, je rends hommage à l'infini. Je définis l'infini. L'infini, c'est pas moi. L'infini, c'est pas moi, et la preuve, eh bien, j'accepte de finir. Et en acceptant de finir, j'affirme l'infini. Vous voyez un peu l'intuition là qui est derrière, que je trouve quand même très puissante, courageuse aussi, spéculative. Bon, elle est un petit peu peut-être déficiente parce que je dirais la survie personnelle n'est pas fort affirmée là-dedans. Il se met un peu dans la ligne de certains philosophes antiques et modernes qui disent, bon ben c'est vrai, nous passons à l'infini, mais dans le grand tout de l'esprit absolu qui dirige le monde, nous rejoignons, mais pas à titre personnel, mais nous rejoignons d'une certaine manière, eh bien, l'esprit, et quand nous sommes sur Terre, eh bien, nous partageons, nous participons à cet esprit infini. tout en étant fini. Ça, c'est le paradoxe de l'homme, c'est qu'il se sait fini, mais il ne se contente pas d'être fini. Hein. Il pense l'infini, mais il le pense d'autant mieux qu'il accepte de n'être que fini. Voilà, donc ça, je trouve quand même une affirmation assez forte, et c'est en effet un défi hein, de la liberté elle-même que de s'affirmer dans sa finitude pour affirmer l'infini. Donc voilà, cette abnégation du fini, eh bien, concède une part d'échec, une part d'incompréhensible, de contingence, peut-être même d'absurde. Mais dans le geste même de concéder cela, il y a comme un surcroît de sens, hein, une affirmation supérieure. Cet ultime échec du fini, eh bien, devient une affirmation de l'infini. À cet absurde même, la liberté spirituelle peut donner un sens. Et un sens qui n'est pas logique, mais qui est surlogique. Comme je vous disais, je vais mourir, donc j'ai peur. C'est tout à fait logique. Je vais mourir, donc je me sens encore plus vivant. Eh bien, ça, c'est surlogique. C'est pas absurde. Mais c'est surlogique parce que normalement, je vais mourir, donc je suis triste, je ne sais pas quoi, j'ai peur. Mais je peux aussi bien dire, je vais mourir, donc je me sens encore plus vivant maintenant. C'est ce rebondissement, cette résilience, cette espèce de coup de rein métaphysique, si j'ose dire, hein, qui permet eh bien, à la force de l'esprit, comme dit Bruère, c'est une expression de Bruère, la force de l'esprit, eh bien, de penser l'âme comme immortelle, mais pas dans cette représentation hein, de l'âme séparée du cadavre, etc., mais l'esprit comme étant immortel, à titre individuel ou à titre commun, collectif, ça, bon, ben, c'est encore à réfléchir. Parler d'âme séparée, c'est faire appel à la capacité de l'homme d'être présent à lui-même à chaque moment de sa vie jusqu'au moment de sa mort. Nous nous représentons cette capacité de l'homme sous forme d'une âme séparée qui survivrait à titre personnel, individuel. Bien ça, c'est vrai que tous les mystères antiques, toutes les aspirations humaines, toutes les religions, la plupart en tout cas, expriment cette connaissance qu'à l'homme de ne pas être réduit à l'échec de la mort et du cadavre. Et le philosophe aussi, hein, d'une certaine manière, pense quelque chose comme cela, pas tous bien sûr, hein, mais quand même beaucoup et des plus grands, pensent cela, qu'il y a une réalité spirituelle de chacun d'entre nous qui n'est pas simplement quelque chose qui pourrit au cimetière. Quoi. Voilà. Bien sûr, Auguste Comte le pense, lui, hein, mais quand même, pas tout à fait, comme je vais vous l'expliquer. Et Sloterdijk le pense et ne le pense pas, il regrette qu'on le pense trop, etc. J'en dirai un mot à la fin. Et donc, immortalité et survie personnelle. Finalement, mourir, j'en avais une définition un peu plus haut, la mort est ce nécessaire achèvement corporel d'une liberté qui s'accomplit en donnant sens ou non-sens à toute sa réalité naturelle. Eh bien, voilà une seconde définition de la liberté, c'est mourir, c'est s'accomplir en échouant. Mourir, c'est s'accomplir en échouant. L'acte est échouant de l'échec. Hein. La mort est un acte à la fois du corps, mais de la liberté. Et de la liberté qui assume cet échec. Et qui, dans cette acceptation, dans cet acquiescement à la précarité de la chair, qu'on assume, eh bien, d'une certaine manière, la liberté de l'homme peut se transfigurer. Peut-être transfiguré. Mais comment ? Ici, évidemment, j'affirme hein, une puissance de l'esprit qui est capable de tout porter, de tout supporter, même l'échec, même la mort, et de durer dans ce dernier échec sans en avoir peur. Mais comment donner sens à cette incapacité définitive de s'accomplir ? Comment donner sens à cela? Eh bien, est-ce qu'il n'y aurait pas une piste à dire que l'homme s'accomplit en donnant sens à son incapacité de s'accomplir par lui-même, en s'ouvrant à la possibilité d'être accompli par les autres, au-delà de lui-même, au-delà de sa personne individuelle, par les autres ou par Dieu peut-être. Avoir opté définitivement pour un sens, même excellent durant toute sa vie, ne donne pas encore à l'homme la capacité de se survivre. Aucun d'entre nous n'y réussira. Mais cette incapacité de nous accomplir par nous-mêmes, c'est là l'intuition principale, nous invite à nous laisser nous accomplir par les autres, nous invite à nous en remettre aux autres et à Dieu pour accomplir ce que nous voulions accomplir mais que nous sommes incapables d'accomplir par nous-mêmes. En acceptant ainsi la mort et en s'en remettant aux autres, l'homme reconnaît un sens meilleur à se trouver accompli par les autres plutôt que par lui-même. Alors bon, j'ai mis là en dessous de l'histoire humaine, la postérité, enfant, œuvre, etc. Un exemple, eh bien, il me semble que quelqu'un qui meurt entouré de ses enfants, de ses petits-enfants, eh bien, quel est le sens qu'il peut donner à sa vie? Il a peut-être fait des choses extraordinaires, mais il va quand même mourir. Mais il peut donner en héritage ce qu'il a fait à ses enfants et petits-enfants et leur proposer de l'accomplir, de continuer dans le même sens, de développer ce qu'il a fait, en tout cas, de se remettre dans son propre échec aux autres pour que les autres en fassent quelque chose. Et c'est s'en remettre non seulement à ses enfants et petits-enfants, mais d'une certaine manière, c'est s'en remettre à toute l'humanité. À l'humanité peut-être même passée, présente et à venir. À tous ceux qui vont naître, qui ne sont pas encore là. S'en remettre à ceux qui ont disparu et ceux qui ne sont pas encore apparus et à ceux qui sont là. Est-ce que ce n'est pas une perspective qui nous permet de surmonter par la pensée, par la liberté de l'esprit, eh bien, l'échec qu'on ne peut pas nier quand même, et qui est rencontré dans la mort. Je dirais qu'un artiste peut aussi penser comme cela, il lègue à la postérité, un héritage, des livres, des partitions de musique, je ne sais pas quoi, et il dit, moi je ne suis plus là pour les entendre, je ne suis plus là pour les développer, je ne sais pas quoi, mais vous pouvez en faire quelque chose, faites-en quelque chose. Donc l'homme reconnaît un sens meilleur à se trouver accompli par les autres et par Dieu. Alors bon, Sartre dit l'enfer c'est les autres, mais ici moi je dis l'inverse, le paradis c'est les autres d'une certaine manière. C'est se remettre aux autres, s'en remettre aux autres. Bon, alors c'est pas si facile que ça parce que les autres ils sont pas toujours si gentils ou si accueillants ou si je ne sais pas quoi, bon bien sûr, mais cette confiance de s'en remettre à l'autre, eh bien peut être quelque chose qui nous fait passer à une réussite de cet échec qu'est la mort. Et donc la survie à laquelle nous pensons, elle est à la fois singulière et commune. Singulière et commune. Alors souvenez-vous des petites formules de Hegel, l'universel, le particulier, le singulier, et puis bien sûr, universel, particulier, singulier, on revient. L'universel, c'est l'histoire du monde, puis un être né particulier, il se singularise, en travaillant à faire quelque chose de sa vie, et puis, il est noyé de nouveau dans l'universel pour que d'autres puissent continuer à faire avancer ce monde en se singularisant, en travaillant leur propre vie et en l'offrant à la communauté. Donc, il y aurait survie personnelle à travers la postérité, à travers les œuvres, etc. Mais aussi vraiment commune. Les autres vont m'accomplir au sens où c'est pas seulement moi qui donne ma vie avec tout ce qu'elle a de bien, mais c'est les autres aussi qui vont me définir en recevant cette œuvre que j'ai faite. Hein. Ils vont peut-être déployer beaucoup plus que je croyais tel aspect de ma vie et beaucoup moins que je croyais tel autre aspect de ma vie. Hein. Ce qu'écrit un musicien, ce sont des exemples évidemment, hein. Peut-être que la partie la plus précieuse de son œuvre, c'est celle-ci, et finalement c'est celle-ci que la postérité va laisser tomber parce que celle-là qui est beaucoup plus chaotique, eh bien c'est celle qui ouvre un avenir. Hein. Donc voilà, d'une certaine manière, nous ne savons pas tout à fait non plus ce que nous léguons aux autres. Et peut-être que leur réception de cet héritage va transformer notre propre donation, si on veut. Et cette vie commune de l'humanité est aussi finalement une vie enracinée dans l'être et finalement en Dieu, en tout cas pour les croyants. Et donc, je reprends, vous vous souvenez du grand cercle de l'histoire surnaturelle, hein ? L'histoire surnaturelle, alors le diamètre horizontal, c'est l'histoire naturelle, là-dessus, ben, il y a toutes les histoires humaines qui se succèdent. Eh bien, achever sa vie, c'est peut-être, de nouveau, imaginativement, hein, c'est une représentation, terminer sa vie, c'est peut-être, eh bien, se retrouver sur un point de cette circonférence, qui est désormais à égale distance de ce présent qui est au milieu, hein, et de tous ces présents qui se succèdent. Et c'est donc, voilà, se retrouver dans le passé, le présent et l'avenir de l'histoire naturelle et humaine des autres. Alors, deux, trois réflexions pour étayer cela. Eh bien, nous sommes nous-mêmes les héritiers de tous ceux qui nous ont précédés. Hein. Nous ne le savons pas, nous avons oublié le nom de notre arrière-grand-père, etc. Mais nous portons ses gènes et nous portons ses qualités, etc. Et voilà aussi les enfants, petits-enfants, nous ne savons pas hein, qui ils seront. Mais nous nous confions à ceux qui ne sont pas encore là. Je trouve que c'est une idée assez, assez intéressante. Hein. C'est par là indiquer une confiance dans l'humanité qui est capable d'accueillir ce don et de le prolonger. Et donc nous nous remettons à la merci de ceux qui sont moins que nous, parce que peut-être ils ne sont que des enfants, ou bien qui ne sont même pas nés, nous nous remettons hein, à leur, avec confiance, eh bien, à leur liberté. Le jeu a quelque chose d'irréductiblement singulier. Il peut reconnaître une certaine vérité, un certain sens, une certaine bonté de valeur. Mais tout cela, nous le remettons aux autres. Et ce sont les autres qui vont finalement l'opérer, hein, l'agir, le faire fructifier. En m'effaçant de la terre des vivants, en laissant la place aux autres, je leur donne pouvoir sur mon corps, sur ma vie, sur ma survie historique, en leur donnant pouvoir sous mon corps, en étant donc à la merci de leur liberté, je découvre comme une puissance nouvelle et véritable, hein, celle eh bien, que les autres vont déployer en recevant cet héritage. Alors c'est là que je dis que Auguste Comte avait quand même compris quelque chose à cela, hein. Parce qu'Auguste Comte, bien sûr, c'est un positiviste, comme vous savez, catéchisme positiviste. Bon, il ne croit donc pas à l'histoire surnaturelle, à la transcendance et tout ça, mais quand même, il avait fondé une espèce de religion rationaliste. Hein. Et dans cette religion rationaliste, qui a beaucoup copié à l'Église hein, et à la religion chrétienne, bien sûr, hein, c'est pas si facile que ça d'inventer une religion. Hein. Donc, copier, c'est plus facile. Donc, il avait son calendrier. Alors, pas un calendrier avec les saints, parce que bon, saint Thomas d'Aquin et tout ça, saint François d'Assise, c'est un peu bête, mais Galilée, voilà, hein, Newton, bon, ben ça, ce sont vraiment des gens qu'il faut fêter. Hein. Alors, tel jour de l'année, on va fêter Ptolémée, tel jour de l'année, Alexandre le Grand, tel jour de l'année, voilà, il avait un calendrier, non pas des saints, mais des grands hommes, hein, qui avaient fait quelque chose pour l'humanité, et il fallait recevoir cet héritage et le conserver. Alors malheureusement, disait-il de manière un peu triviale, il y en a toute une masse d'autres qui ne sont pas dans le calendrier, bien sûr. Certains mériteraient d'y être, mais la plupart pas, parce qu'ils sont venus sur Terre pour faire du fumier. Voilà, hein, c'était vraiment raplapla, hein. C'est un positiviste, donc ils sont venus là, bon ben, ils sont un petit chaînon dans l'affaire pour que ça ne se perde pas tout de suite. Mais voilà, il a quand même une certaine affirmation du sens, hein, de l'histoire humaine avec sa continuité, hein, et l'héritage qu'on se transmet. Alors, la résurrection de laquelle nous parle la religion chrétienne, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant pour une réflexion sur la mort, pour une réflexion philosophique sur la mort? Est-ce que l'idée même, le théologoumen, comme on dit, l'affirmation théologique de la résurrection peut être conceptualisée d'une manière ou d'une autre et comprise? Ben, conceptualiser, c'est peut-être difficile, mais symboliser peut-être, hein, le symbole de la pensée, disait Ricoeur, peut-être que la résurrection peut nous réjouir, nous consoler, mais ça, on est encore dans la représentation, peut-être, hein, dans un imaginaire affectif plus ou moins agréable, mais peut-être qu'on peut aller plus loin et penser, au-delà de cette représentation, ce que signifie la résurrection. Eh bien, la résurrection, comme vous savez, elle est affirmée comme à la fois singulière et commune. Hein. C'est à la fois chacun de nous qui va ressusciter, mais c'est tous ensemble que nous ressusciterons. Et normalement, c'est devant le Christ, hein, homme et Dieu. Et d'ailleurs, dans le Credo, comme vous savez, eh bien, nous disons à la suite, je crois à la communion des saints, à la vie éternelle. Hein. Les deux, la communion des saints, c'est cette communauté de personnes, mais voilà, qui entre dans une vie éternelle qui est d'ordre plus, je dirais, universel. La communion des saints, c'est la construction à partir des singularités, hein, et bien d'une communauté. D'ailleurs, pour Balthazar, je l'ai indiqué là aussi, hein, toute sa réflexion eschatologique, ça veut dire sur les fins dernières, ce qui se passera à la fin des temps, etc., et bien c'est une réflexion centrée sur la communion des saints. Pour lui, dès aujourd'hui bien sûr, mais plus encore dans l'eschatologie, cette communion des saints sera la réalité, la vraie réalité. Hein, la communion de toutes les personnes qui ont œuvré, hein, au royaume, etc. Et donc voilà, il y a ici l'espérance de pouvoir affirmer une unité des vivants et des morts dans cette communauté, dans cette communion des saints. Et comme je vous disais, imaginativement, nous rejoignons la circonférence, hein, de cette histoire surnaturelle qui se trouve donc, qui se trouvera à égale distance de tous les présents, à la croisée des diamètres là, de tous les présents qui vont se succéder après nous. Cela marque donc l'importance dans la mort de l'individu, de la personne, de la communauté qui l'entoure, de la communauté qui l'a constituée, hein, à laquelle il a participé, cette solidarité. Hein. Je me souviens que, à une réflexion sur la mort à l'INPR, on nous avait dit que telle tribu des Inuits, ou je ne sais pas quoi, hein, eh bien, quand quelqu'un, ce sont des Esquimaux qui vivent dans le Grand Nord, hein, quand quelqu'un,
Inuit,
voilà, exact. Eh bien, quand quelqu'un sentait que sa mort était venue, il se retirait de la communauté et il s'enterrait dans la neige, dans la glace, et puis voilà, bon, il achevait ainsi sa vie pour ne pas gêner la communauté. Bon, je ne juge pas ce rite, s'il existe encore ou je ne sais pas quoi, mais c'est tout à fait différent de dire au contraire, hein. Il va mourir parmi nous, quels que soient les inconvénients qui existent. Hein, il n'en existe pas seulement dans la neige et dans la glace, hein, il en existe ailleurs aussi, de porter une personne qui est occupée à finir sa vie. Mais la présence de la communauté, je crois, est très, très, très importante, de la famille, de la communauté, est très importante pour donner sens et valeur à la vie et à la mort de chacun. Voilà. Je voudrais encore ajouter une dernière réflexion, c'est que cette interaction de celui qui meurt avec sa communauté n'est pas réductible à l'interaction entre les sujets qui se connaissent. C'est aussi une espèce de communion métaphysique dans l'être. Si je suis en relation avec quelqu'un, si j'ai une amitié ou un amour avec quelqu'un, bien sûr c'est pour cette personne, mais c'est pas par le fait que lui ou elle existe et moi aussi. C'est d'abord par cette communion dans l'être, parce que nous sommes tous les deux des existants, des vivants, des humains, que nous nous rencontrons personnellement. Donc je dirais qu'il y a un intermédiaire, là, une interface qui n'est pas visible évidemment, qui est peut-être abstrait, mais qui est notre enracinement dans l'être. C'est ça que j'ai indiqué, la unité des vivants et des morts, enracinement dans un tiers, dans l'être ou en Dieu. Je crois que c'est très beau de se dire, quand j'ai un ami ou un enfant, je ne sais pas quoi, bien sûr je communie avec cet enfant, mais je communie à travers l'être que nous avons reçu en partage, tous les deux, ce même être. Ce même être. Et cet être, est-ce qu'il est complètement abstrait, comme le pense un peu Heidegger sans doute, ou est-ce qu'il est davantage consistant, même vivant et personnel? Ça c'est encore une autre affaire, mais se dire que aimer quelqu'un, c'est aimer l'être. C'est être heureux d'être soi-même, et être heureux de rencontrer un autre qui est dans cet être et communier avec l'autre dans l'être. Alors bien sûr, comme je vous le dis, ça a l'air assez abstrait, et puis cette interface, si on veut, n'est jamais visible, mais je crois qu'au fond de nous-mêmes, nous savons bien que l'autre, il est précaire, il n'est pas l'être. Il participe un moment à l'être, comme moi aussi d'ailleurs. Et ce que nous aimons, c'est d'être, c'est de vivre, de partager cet être. Et je termine avec une petite citation, et ça me vient maintenant à la mémoire, de Maître Eckhart, qui a un très beau sermon sur l'être, la vie, etc. Et il dit, nous vivons, nous aimons la vie. Pourquoi aimons-nous la vie? Aussi misérable qu'elle soit, nous aimons la vie. Et nous voulons vivre, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les misères. Je suppose qu'à cette époque, il y en avait peut-être encore de plus manifestes. Eh bien, malgré tout, nous voulons vivre. Pourquoi? Parce que nous sommes des vivants. C'est cela. Vivre, c'est vouloir vivre. Voilà. Eh bien, je termine ici. Je vais demander à Jacques de bien vouloir clôturer le flux et je vais arrêter aussi l'audio. Voilà, merci. Prochain, dans la fois prochaine, nous avons encore deux cours sur le même chapitre 7, un seul chapitre 7 qui est l'homme devant Dieu. Je vais réfléchir notamment à partir de Rahner et de son livre L'homme à l'écoute du Verbe et d'autres choses encore. Très bien. Merci d'être là en présentiel aussi. Parce que l'interface de l'être informatique quand même est un peu abstrait. Ah oui, pour Sloterdijk, je n'ai pas complété tout à fait. Sloterdijk, donc ici, règle pour le parc humain. Alors c'était quelque chose, c'est un petit fascicule comme vous voyez, qui l'a publié en 1999 et qui a fait grand scandale, mais où il explique que l'humanité finalement va être dirigée comme un zoo et qu'on va devoir faire l'élevage des humains, les reproduire, etc., les élever, les parquer, règle pour le parc humain, mais il s'en lamente, parce que lui c'est un homme de culture, c'est un philosophe. Bon, un peu Nietzsche, bien sûr, etc. C'est pas ne va pas dans le sens de... Enfin, très, très, très spirituel, mais quand même, hein, il est vraiment dans l'histoire humaine. Et il craint que cette histoire humaine ne se dégrade en une histoire purement naturelle, purement biologique, hein, et qu'à force de vouloir maîtriser ceci et cela, on en arrive à faire de notre humanité un grand troupeau, hein, dont il faudra bien s'occuper, le parquer à gauche, à droite, éliminer ce qui est embêtant, et tout ça. Voilà. Règle pour le parc humain. C'est impressionnant. Difficile à lire, hein, parce que voilà, c'est un titre qui vient plein de catégories philosophiques assez complexes. On en avait parlé au semestre passé, hein, pendant deux leçons. Voilà, au revoir.
C'est quoi le nom, pardon, de nouveau ?
Sloterdijk. Est-ce que je n'ai pas mis ? Non, je n'ai pas mis. C'est un nom néerlandais, mais c'est un allemand.